CQFD.
Émission spéciale en direct de l'EPFL, émission sur l'architecture durable. Et qui dit architecture dit matériaux. Et des progrès importants ont été faits ces dernières années dans ce domaine, Bastien Confinot.
Ouais, alors, oui et non, c'est-à-dire qu'on continue à utiliser quand même les mêmes matériaux, type béton, bois, acier, verre. Mais on a fait beaucoup de progrès sur la durabilité de ces matériaux-là, et notamment leur faible impact environnemental. Alors par exemple, ici à l'EPFL, un nouveau type de ciment a été développé, entre autres par Aurélie Favier. Elle est collaboratrice scientifique du laboratoire des matériaux de construction.
On a exactement les mêmes performances qu'un ciment classique. La différence, c'est qu'il produit moins de CO2 lors de sa fabrication et lors de son utilisation.
Parce que le ciment, on fabrique beaucoup de CO2 quand on le fabrique ?
Alors, on ne fabrique pas beaucoup de CO2 quand on le fabrique. Par contre, on en consomme beaucoup dans le monde. Donc, le fait d'en consommer beaucoup, ça fait que il est un des contributeurs majeurs des émissions de CO2.
C'est-à-dire en pourcentage d'émissions de CO2 ?
Entre 5 et 10% des émissions mondiales.
Ok, donc c'est quand même pas mal. Et vous avez envie de réduire ces émissions de CO2 ?
En effet. Et de pouvoir aussi répondre à la demande grandissante du besoin de béton dans le monde.
Parce que la demande est en très très forte augmentation ?
Oui, en effet, tous les pays en voie de développement sont en train de fabriquer leur infrastructure. Par exemple, la Chine, sur ces 3 dernières années, a consommé autant de béton que tous les États-Unis sur le siècle dernier.
Ah oui, ça fait quand même beaucoup. Donc évidemment, si on pouvait polluer un petit peu moins en fabriquant ce ciment, ça serait pas mal. Et ça, c'est ce que vous faites ici. Alors racontez-moi, on a des bacs devant nous. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?
Alors, il y a toujours le composant majeur, qui est le clinker.
Donc du ciment de base, quoi.
Exactement. On va en prendre 50%. Ensuite, on aura 15% de calcaire, qui est cette poudre blanche.
Ah ouais, c'est très joli, on dirait un peu de la farine.
Exactement. Et on va rajouter de l'argile calcinée, et on va en mettre 30%.
C'est-à-dire que le ciment de base, pourquoi est-ce qu'il émet beaucoup de CO2 ? Parce qu'on le chauffe énormément pour le fabriquer ?
Il y a 60% des émissions de CO2 qui viennent de la réaction du calcaire qui est chauffé. Donc dès qu'on chauffe du calcaire, on émet du CO2. Et 40% qui vient de la consommation de fuel qu'il faut pour monter à 1450 degrés.
Donc si je comprends bien, quand on fabrique le ciment de base, on chauffe beaucoup, donc ça consomme de l'énergie, donc du CO2, et la réaction chimique qui se produit dégage aussi du CO2. Là, vous en utilisez plus que 50% dans votre nouveau ciment, donc c'est évidemment moins de CO2. Mais vous avez parlé aussi d'argile calcinée, donc ça veut dire que vous chauffez aussi, j'imagine, si c'est calciné.
Alors on chauffe l'argile à une faible température, quasiment la moitié de la température qu'on a besoin pour fabriquer le ciment. Donc ça émet beaucoup moins de CO2. Donc on a une forte réduction du CO2 juste par le remplacement de 50% du clinker par d'autres matériaux.
Même calciné comme c'est faible température, c'est moins de CO2 et il n'y a pas de réaction chimique comme il y avait avec le ciment de base, qui fait que ça dégage du CO2 ?
Non.
Donc au final, le bilan ?
Le bilan, on sauve 30% d'émissions de CO2.
Et ça ne coûtera pas plus cher qu'un ciment traditionnel ? Parce qu'il y a la question écologique, mais il y a la question de prix souvent qui entre en ligne de compte.
Les premières estimations montrent que normalement, il devrait coûter moins cher, ouais.
Voilà, ça c'est pour le béton avec un bel exemple de recherche menée ici à l'EPFL, en l'occurrence présentation par Aurélie Favier. Le bois est-il aussi un matériau très utilisé, Bastien ?
Ah oui, c'est même, je dirais presque de plus en plus. En fait, ses propriétés sont différentes de celles du béton, donc ils se complètent finalement très bien l'un l'autre, même si parfois le bois peut paraître un peu désuet, on continue à l'utiliser. Yves Veynant, directeur du laboratoire de construction en bois à l'EPFL.
Alors tous nos efforts d'ailleurs on sent aller dans le sens où on a essayé de changer l'image de l'architecture qui est associée au bois, de montrer que évidemment il y a une composante très traditionnelle et que ça peut devenir en fait un matériau tout à fait contemporain qui peut également être associé à une image ou une expression architecturale contemporaine.
Mais est-ce qu'on a un avantage par rapport au béton ou à l'acier par exemple ?
Alors ce sont des structures très légères. Donc ce qui est très clair, c'est que le bois trouve souvent son application lorsque les fondations existent ou lorsqu'on travaille dans l'existant, puisque les poids qu'on ajoute sont très faibles et dans ce cas-là, la solution bois est souvent retenue. Deuxièmement, je constate que aujourd'hui, souvent, le maître d'ouvrage, mais aussi les auteurs, les mandataires, proposent une variante en bois. Donc il y a peut-être 10 ans, on calculait la variante acier, la variante béton, et là, il y a le bois qui est calculé également.
Et au niveau de l'impact environnemental, est-ce que le bois présente des avantages par rapport aux autres matériaux ?
Mais oui, c'est un matériau entièrement renouvelable. Donc le bois, on peut après le réutiliser, le recycler. Donc c'est tout à fait sain. Si on avait une plus grande ou plus performante gestion des forêts et des ressources en fait forestières, on pourrait peut-être davantage encore, à une échelle macroéconomique, promouvoir le bois. Ce qui se passe pour l'instant, c'est que l'échelle du marché construction en bois est beaucoup plus petit que le marché du béton, par exemple. Du coup, c'est des fluctuations de prix beaucoup plus importantes sur des projets. Et vous le savez, c'est souvent le prix qui décide, mais qui n'est pas toujours justifié, en fait, en fonction de la situation, si vous voulez. Donc là, on a des choses à faire. Par la suite, on tend vers des constructions uniquement en bois, c'est-à-dire on essaye d'enlever, par exemple, les connecteurs métalliques. Et donc, à partir du moment où il faut, déjà pour une structure provisoire, qu'il faut, dont on sait d'avance qu'il faut la démonter, on utilise des connexions bois-bois. Et donc là, on réinterprète des assemblages anciens, et ça uniquement avec un contact bois-bois.
Est-ce que la Terre offre suffisamment de ressources en bois pour qu'on puisse imaginer le développer beaucoup plus ?
Oui, bien sûr. Donc la forêt en Europe a grandi de 30%. Donc il y a plus de forêts qu'aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Donc c'est assez intéressant de voir ça.
Ça, c'était Yves Weinan, qui est directeur du laboratoire de construction en bois à l'EPFL. Et en l'écoutant, je me disais qu'il doit être frustré à l'EPFL parce qu'alors, je regarde autour de moi, franchement, il n'y a pas beaucoup de bois. Emmanuel Rey, comment ça se fait ? C'est que du béton ici, alors, autour de nous.
Alors en fait, si vous regardez précisément en visitant les bâtiments d'architecture, vous verrez que leurs structures sont en bois, en fait. Et puis, finalement, il y a aussi d'autres bâtiments de l'EPFL. J'ai eu la chance de travailler sur l'antenne MicroCity à Neuchâtel pour l'EPFL, qui a été réalisée en grande partie en structure hybride bois-béton. D'accord. Donc, en fait, le bois n'est pas forcément toujours visible comme un décor, mais par contre, parfois, peut se substituer aux éléments structurels et justement, avec beaucoup moins de ressources et beaucoup moins d'émissions de CO2, répondre aux mêmes qualités statiques, mais pas forcément sans être présent de manière ostentatoire.
D'accord, voilà. Modeste, hein, le bois, il reste modeste. Alors, pour commenter cette réflexion autour des matériaux pour construire les bâtiments de demain, nos trois invités, donc Emmanuel Rey, Marilyn Anderson, Thomas Jusselm. C'est assez étonnant de voir quand même qu'on utilise les mêmes matériaux qu'on a toujours utilisés finalement. Il n'y a pas beaucoup d'évolution dans ce domaine.
Alors c'est vrai qu'on revisite souvent des matériaux qui ont déjà été utilisés, mais on parlait du bois à l'instant. Si on compare la manière dont on travaille le bois aujourd'hui avec des chaînes de montage en atelier relativement sophistiquées, numérisées, qui permettent de préfabriquer des grands éléments avec beaucoup de précision, c'est toujours le matériau bois, mais en fait il est très très différent de l'usage traditionnel du bois qu'on a pu avoir dans d'autres périodes. Donc des progrès se font quand même à l'intérieur des matériaux déjà utilisés. La même chose au niveau du recyclage, le béton recyclé, d'autres éléments sont des éléments où on a toujours le même matériau, mais en fait il est très différent dans son usage, voire même dans sa composition si on y regarde plus précisément.
Thomas Jusselm, on pourrait pas imaginer des nouveaux nanomatériaux par exemple qui seraient plus solides, plus isolants, plus propres? Il n'y a pas de la recherche dans ce domaine?
Si, il y a de la recherche, on les imagine déjà. On a des applications par exemple pour les isolants effectivement qui sont très performants. Moi je travaille plutôt comme un intégrateur de solutions et donc j'essaye de réfléchir à l'ensemble du cycle de vie et donc toute la question est de savoir si un matériau ou un isolant est la bonne application dans un contexte donné. Donc si on prend l'exemple des nanomatériaux, souvent ce sont des matériaux qui sont extrêmement performants mais qui demandent aussi beaucoup d'énergie pour leur process et donc qui ont une énergie, ce qu'on appelle l'énergie grise, ouais, de plus en plus importante. Et si on prend un petit peu de recul, on s'aperçoit que finalement la politique énergétique de demain, c'est la décentralisation des énergies renouvelables et donc c'est faire chuter les émissions de CO2 pour l'énergie produite. Et donc finalement, l'énergie consommée demain va être de moins en moins impactante par rapport à la question du climat. Et donc la façon de concevoir et la façon de construire les bâtiments devrait être d'autant plus performante parce que l'énergie que l'on va devoir sauver va être plus faible, le gain va être plus faible. Donc si vous avez un bien qui est de plus en plus performant dans sa consommation, eh bien, il faut consommer moins d'énergie à le produire. Et donc on pense par exemple de plus en plus qu'on a vu une courbe d'augmentation de l'isolation des bâtiments. Peut-être que demain cette courbe et cette quantité d'isolation que l'on va mettre en œuvre va peut-être diminuer en fonction de ce contexte énergétique qui va évoluer. Donc les matériaux effectivement sont innovants, il y a beaucoup de travaux sur ce sujet, mais on part toujours du principe qu'un matériau n'est pas forcément bon ou mauvais, ouais, ça dépend du contexte et de son application.
Emmanuel Rey.
Et puis il y a des domaines de pointe où la nanotechnologie, donc la conception de nouveaux matériaux sur cette base-là, émerge, notamment dans la production d'énergie. Il a été présenté récemment une innovation permettant de réaliser des panneaux photovoltaïques, donc qui captent l'énergie solaire pour en faire de l'électricité, pouvant couvrir toutes les couleurs, même du blanc, ce qui est un peu contre-intuitif quand on pense à capter l'énergie. Et en fait, c'est le couplage de stratégies de production photovoltaïque classique, très performante, avec une couche de nanotechnologie qui permet de faire avancer justement ce type d'éléments et précisément de les intégrer peut-être à l'architecture de manière à en faire un matériau qui a pas seulement une performance mais aussi un aspect esthétique peut-être pour conduire à de nouveaux types de façades. Donc on développe aussi des projets, un projet Active Interface qui se penche sur cette question et sur ce potentiel d'une petite couche de nanotechnologie qui permet d'optimiser finalement la production à la fin de l'ensemble peut-être d'un bâtiment, tout en ayant une architecture intéressante toujours au niveau esthétique, qui reste quand même un élément aussi fondamental de l'architecture, bien sûr.
Évidemment, oui.
Et Marilyn Anderson, là on parle d'énergie grise justement, alors est-ce qu'aujourd'hui quand on pense un bâtiment, on le pense, comme on dit, de la poussière à la poussière, c'est-à-dire qu'on va calculer quel sera l'impact même de la fabrication du ciment et puis tout à la fin du bâtiment, quand on va détruire le bâtiment, de recycler tous les matériaux qu'on a utilisés, ça a aussi un impact, est-ce qu'on calcule comme ça aujourd'hui?
Alors c'est effectivement quelque chose qu'on fait de plus en plus et qu'on devrait appliquer à de plus en plus de cas. La difficulté n'est pas tellement d'avoir une grande partie de matériaux recyclés dans un bâtiment, c'est le cas, l'acier, même le béton est en général dans sa majeure partie du matériau recyclé. Là où le problème se pose, c'est dans les joints, dans le fait qu'un bâtiment c'est un assemblage déjà de disciplines, un assemblage de métiers, mais aussi au sens physique, un assemblage de matériaux et qui, au moment où ils se rencontrent, font une mixité, disons, de matériaux qui est, elle, beaucoup plus difficile d'abord à dissocier et donc à recycler. Le Graal, c'est d'arriver à retrouver la qualité initiale du matériau, même si ce n'est pas pour la même utilisation, mais pour une autre utilisation, de retrouver un matériau qui n'a pas été dégradé par le fait qu'il a déjà été utilisé une fois.
Faire du neuf avec du vieux, quoi, mais du vrai neuf.
Voilà, exactement.
CQFD sur la première.